Alors, ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Shlomo ben David et Mas'ouda Zichrono Livracha. La question de Philippe.
Alors, on a dit dans des précédents cours que pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait une grande majorité de mal pour une petite minorité de bien. Parce que s'il y avait trop de. Si la vérité et le mensonge étaient égaux, alors il n'y aurait pas de choix possible vu que la vérité est trop forte. Maintenant, ma question c'est, vu qu'il faut qu'il y ait une majorité de mal, comment est-il possible qu'on va punir ceux qui sont choisis vers le mal, vu qu'il faut que les autres qui soient dans le bien, il faut qu'ils choisissent entre, on va dire, 99% de mal et 1% de bien. Comment ils peuvent être punis?
Ok. Juste avant que je réponde à ta question, on va peut-être expliquer mieux, réexpliquer pour ceux qui ne savent pas, pourquoi pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait beaucoup de mal pour peu de bien. Parce que le mal ne propose qu'un mensonge. Et la vérité propose la vérité. Si je te vends pour le même prix un diamant qui est faux, un diamant qui est vrai, tu prends le diamant qui est vrai. Si par contre, il y a beaucoup de mal dans le monde, ça crée une sorte de mouvement social, comme la pub. On voit tout le monde qui fait comme ça, alors on commence aussi à faire comme ça. Donc on est plus attiré. Donc Hachem a dû mettre beaucoup plus de mal pour que les personnes aient un libre choix. Parce que c'est avec la vérité. Il y avait la vérité et le mal, 50-50, 50%, 50%. La vérité disant un message beaucoup plus... vrai, quoi dire. C'est le meilleur argument, d'accord, c'est vrai, c'est juste. Alors que l'autre raconte des histoires. Personne n'aurait choisi le mensonge. Donc il n'y aurait pas eu de libre arbitre. La question est, dès lors, vu qu'on va dire qu'il faut 1%, et je suis gentil quand je dis 1% de vérité pour 99, c'est un millième de vérité pour 999 millièmes de mensonge, ceux qui vont dans le mensonge, quelque part, n'ont pas le choix. La réponse. Il est marqué dans le Talmud, le monde a besoin de parfumeurs, le monde a besoin de tanneurs. Bienheureux les parfumeurs, malheureux sont les tanneurs. Un parfumeur, il est parfumé, il sent toujours des bonnes odeurs, c'est bien, c'est sympa, sa fréquentation est agréable pour les gens qui sont autour de lui. Un tanneur, c'est insupportable, ça sent très très mauvais. Les tanneries à l'époque, comme on tannait, on faisait macérer des jours les peaux, qui sont en état de putréfaction, d'accord, dans des excréments de porc ou de chien. Ça sent très mauvais. Ça veut dire que le monde a besoin des deux. Et rajoute le Talmud, bienheureux les parfumeurs, malheureux sont les tanneurs. Ça veut dire que chacun a le choix. Lorsqu'il arrive à l'âge de Bahour signifie l'adolescence, ça vient de la racine Livror, choisir. C'est un âge où on choisit. Avant 16-17 ans, on ne choisit pas. Après 30 ans, on ne choisit plus non plus. C'est dans cette période-là où on a les choix qui vont de toute la panoplie des choix possibles et imaginables. Quelqu'un a le choix d'être tanneur ou parfumeur. Chacun a le choix de choisir la vérité ou le mensonge. On te dit, attention, le choix de vérité, il sera... difficile, parce qu'il y a une place sur 1000, c'est un concours, d'accord, et tout le monde la désire. Maintenant, si la personne veut la vérité, elle y arrivera. Elle a un choix entier. Elle a un choix entier d'y arriver. Sinon, le monde serait injuste. Or, Hachem est juste. Donc, il laisse à chacun les mêmes chances d'arriver à la vérité. Et si tu me diras, non, mais il y a des gens qui sont très très loin de la vérité, je répondrai non. C'est vrai qu'eux, ils ne connaissent peut-être pas le judaïsme, ils ne connaissent pas Hachem, ils ne connaissent pas la Torah, mais ils ont une conscience. Et leur conscience doit leur faire poser la question existentielle. Pourquoi j'existe? Ça, c'est la base des bases. Contrairement aux animaux, l'être humain a une conscience. Dès lors, la question existentielle, à quoi ça sert le monde? Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? On voit bien qu'il y a une fin. À quoi ça sert? Cette question, tout le monde se la pose au moins une fois. Si il continue à chercher, après qu'il s'est posé la question, parce qu'il a un choix, il peut dire, ok, je ne sais pas pourquoi. La réponse m'a l'air assez difficile. Tant qu'à faire, éclatons-nous. Et quand quelqu'un vient et lui pose la question, ouais, oh là là, cette question-là, tu me saoules, viens, on va changer les idées, d'accord ? Ce type-là est un menteur. Parce que cette question, elle est primordiale. Comment tu peux vivre sans savoir pourquoi tu vis ? Peut-être tu te trompes.
Il tend pas cette perche à tout le monde, quand je me refais
de... Tu poses la question une fois dans sa vie ? Non, ouais. Tout le monde l'a. La personne la plus sous-développée que tu peux imaginer, elle a aussi une conscience.
Mais le temps de la perche de la réponse, c'est la Torah, pas tout le monde.
Non, attention, je suis en train d'expliquer comment on arrive à la Torah. Alors lui, maintenant, il est en Mongolie intérieure, d'accord ? Il est analphabète, d'accord ? Pour pas qu'on tourne après sur les Chinois. Je n'ai pas pris la cambrousse pour dire que j'ai tombé sur les Noirs, d'accord ? Donc j'ai pris les jaunes, d'accord ? Mais je n'ai rien contre les jaunes ni contre les Noirs, d'accord ? Je prends un exemple tout à fait hypothétique et aucune ressemblance avec une personne existante ne saurait avoir une réalité. Ou avec un peuple existant, d'accord ? Quelqu'un de sous-développé, analphabète, mais humain, fait partie de la famille humaine, a une conscience. Ça veut dire, contrairement aux animaux, il peut penser qu'il pense. Il peut se mettre hors de lui-même, de façon projection en pensée, et se dire, qui suis-je ? Pourquoi je suis là ? À quoi ça rime ce monde ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La première question, la première chose qu'un enfant commence à dire, c'est « mazé ». Qu'est-ce que c'est ? C'est les premiers mots chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un beau jour, il va dire « Qu'est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce que c'est que le monde ?» Tout le monde s'impose. Et là, c'est clair que c'est une question super importante. Parce que si on ne sait pas à quoi ça sert, comment on l'utilise, mais comment on vit dans ce monde sans savoir à quoi il sert ? Alors il y a le choix de dire, comme j'ai commencé à dire, ça me saoule, c'est trop dur. Après tout, ces questions-là, au contraire, nous torturent. J'ai raconté plusieurs fois, un oncle super milliardaire, je ne sais pas combien il a, milliardaire, d'accord, à Londres. Bon, aujourd'hui, il est en Israël. Et une fois, il a dit à ma mère, je suis jaloux de ces Anglais qui prennent le hot dog dans la main gauche, la chope de bière dans la main droite, regarde un match de foot et s'éclate et la vie s'arrête là. J'arrive pas. Il aimerait être comme eux. Il est torturé par sa neshama qui lui dit non mon cher ami, il y a plus. Il y a un but, il y a une raison, ça le torture. Mais il aimerait bien pouvoir se dégager de ces questions. Donc il choisit de façon sciente le mensonge. Par contre, si il dit mais comment je peux continuer à vivre sans savoir, sans connaître la réponse à cette question. Et il commence à creuser. Hachem va l'aider. En cela, il y a la réponse à ta question. Hachem peut l'aider. C'est Hachem. Voyant qu'une personne est avide de vérité, elle va l'aider. Et lentement, s'il est authentique, lentement, de fil en aiguille, il pourra arriver au peuple juif. Quelqu'un qui cherche, donc dans sa Mongolie orientale, d'accord ? Ou intérieure. Il cherche. Il va dire, je vais voir un peu ce que disent les autres. Il va apprendre d'autres langues. La Bible a été traduite en plus de 1000 langues et dialectes. Il va lire la Bible. Il verra qu'il y a un truc extraordinaire. Hachem se dévoile à un peuple entier. Aucune histoire, aucune Bible, aucune religion prétend une chose pareille. Comme la Torah le dit, demande dans les chroniques les histoires des peuples, est-ce qu'un peuple a seulement raconté qu'Hachem, que Dieu s'est dévoilé à un peuple entier et le peuple a survécu ? Demande autour de toi. La Torah assure que c'est impossible, ça n'existe pas. C'est quand même assez édifiant. C'est qui ce peuple ? Il vivait il y a 3500 ans. Ah bon, ils sont morts. Non, ils sont là. Et on parle d'eux sans cesse. La chrétienté, qui est une très grande religion, prétend découler de ce livre-là. L'islam, lui aussi, fait l'éloge de ce livre-là. On a déjà deux tiers de la terre. Avec la chrétienté et l'islam, tu recouvres deux tiers de la terre. On passe pas inaperçu. On n'est pas grand-chose, on est petit, mais on passe pas inaperçu. Donc quelqu'un qui cherche ne peut pas passer à côté du peuple juif. S'il est authentique et il cherche, il n'a pas d'intérêt spéciaux à choisir plutôt cela ou cela, il fonctionne bien avec la tête et pas avec les sentiments, pas avec la croyance, pas avec le curé, il est sympa, ou l'imam, il est joli, d'accord ? Sympa, joli, ce n'est pas les arguments de vérité. Ou il sent des choses, d'accord ? Sentir, ce n'est pas un argument de vérité. Vérité, c'est mathématique, rationnel, super froid. Il ne veut pas se tromper. Et Hachem l'aidera. Oui.
Je vois pourquoi on doit être authentique, parce que justement, libre arbitre voudrait dire que le bien m'attire autant que le mal. Pour cela, on doit avoir 1% de bien, 99% de mal. Parce que le bien est une force bien supérieure à la force du mal. Mais ce 1% a autant de force que le 99% de mal. C'est-à-dire qu'a priori, maintenant, quand j'ai le choix, soit je fais le bien, soit le mal, je suis attiré soit par l'un, soit par l'autre.
Oui.
Ce qui voudrait dire que statistiquement, en théorie, vous dire que la moitié des juifs devrait être dans le bien et la moitié des juifs devrait être dans le mal. Ma question, c'est, je pense, c'est l'inverse. Pourquoi on doit avoir 99 et 1% en fait ? Pourquoi aujourd'hui on se rend compte que c'est plus une minorité qui suit le bien plutôt que le.
Très bonne question. Le choix est égal et pas égal. C'est-à-dire, quand je suis face à un choix entre vérité et mensonge, alors j'aurai une pulsion égale me tirant vers la vérité et une pulsion égale me poussant à choisir le mensonge. Ça aussi, c'est quand on est au début de route. Quand quelqu'un s'est enfoncé dans le mal, alors il est plus attiré par le mal que par le bien. Si quelqu'un, au contraire, il s'est hissé au niveau du bien, il sera plus attiré par le bien que par le mal. Mais au début du chemin, d'accord, ou disons que la personne a fait toujours des choix une fois comme ci, une fois comme ça, donc on va dire qu'il est 50-50. Effectivement, il y aura une attirance égale des deux côtés. Mais cette attirance provient de parties tout à fait différentes de la personne. La vérité provient, comme je dis, de la raison. Mais qui est raisonnable ? Il faut être très très authentique pour être raisonnable. L'argumentation du mal, c'est agréable. C'est super kiffant. Au contraire, la vérité qu'on te propose, c'est casse-pied. La yeshiva. Prends le cas de la yeshiva, d'accord ? Quelqu'un qui aime l'étude de la Torah, c'est un des plus grands kiffs qu'il y a sur Terre. Mais au niveau de la galerie, au niveau de la pub, au niveau des clichés qu'on montre sur les affiches, c'est pas kiffant. Tu préfères voir quelqu'un en ski sur neige vierge, sur l'Himalaya, ou ski nautique, clac, il éclate comme ça. Quelle est la partie qui est touchée par le type fait du ski nautique ? D'accord ? Tu vois la plage de sable blond avec derrière les cocotiers, la mer bleu ciel, le ciel bleu foncé avec les filtres, d'accord, un truc comme ça, et encore c'est une bonne femme derrière, encore mieux, d'accord. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose de l'épidermique. Le soleil, la caresse du soleil sur le corps, oublier tout ce qui est toute obligation, vivre près de la nature sauvage, les cocotiers, la mère, et c'est la femme, elle est là, comme je dis, voilà. Et donner toutes les pulsions que tu as, voilà, ski nautique, c'est sportif, c'est bien, c'est bon. Ça touche, mais ça touche quoi ? Les parties les plus basses de l'être. Mais ça touche. Maintenant, tu fais une pub yeshiva, tu vois des barbus en train, devant un bouquin comme ça, t'en discuter. Bon. C'est clair, moi le premier, je choisis le ski nautique plutôt que la yeshiva, ça parle beaucoup plus. Ça, c'est dans l'extérieur. Maintenant, on doit être suffisamment sage, et la vérité raisonnable peut me dire, c'est pas l'image qui correspond à la réalité. Il y a une réalité, il y a une image de la réalité. Tu es dans l'imagination. Quand tu vois la plage de sable blond, c'est imaginatif. On fait travailler ton imagination. C'est de la suggestion. Avec ta raison, tu dois voir maintenant où est le point de vérité. Elle n'est pas dans l'image. Alors, quel est le message qu'on propose à la yeshiva ? On propose me connaître. Qui suis-je ? Pourquoi je vis ? Se brancher avec la source de tout bonheur, toute vie, Hachem. Au niveau du message, c'est un message super percutant. Mais il nécessite un travail. On n'est pas resté de façon naturelle. On n'aime pas l'effort. On a toute opulsion animale, que je veux dire, en tout cas de bas niveau, qui sont là. beaucoup de très bonnes raisons pour lesquelles 99,9% de la population mondiale va choisir le mensonge. C'est tout.
Ça veut dire qu'un humain qui n'a pas fait le travail pour arriver à une certaine authenticité est dépourvu complètement de libre-arbitre, finalement. C'est-à-dire que pour arriver au libre-arbitre, il faut avoir un minimum de travail sur soi-même.
Absolument. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait aucune source d'authenticité en lui n'a aucune chance. Mais tout le monde l'a. On appelle ça un échama.
On
ne
doit plus faire ce qu'il n'est pas.
Pardon ?
On doit demander à son race si on peut aller faire du ski nautique.
On demandait à sa neshama est-ce qu'on doit faire du ski nautique ou pas. C'est-à-dire, je vais expliquer comment ça fonctionne. On a trois parties en nous. Nefesh, Ruach, neshama. Nous, c'est le Ruach. C'est nous qui décidons. On a les pulsions qui viennent du nefesh, les pulsions qui viennent de la neshama. Les pulsions qui viennent du nefesh sont physiques, je dirais même animales. D'accord ? Paresse, plaisir, ce qui va ensemble d'ailleurs. Quel plaisir de rester au lit, grasse matinée. D'accord ? Paresse, plaisir, agressivité, jalousie, toutes les mauvaises midotes. La Neshama, elle donne un message, sois vrai. Réalise-toi vraiment, dans ce que tu es vraiment. Ou la bonté pour la bonté. Des messages qui peuvent me toucher aussi. Chaque être humain a ses trois parties. Chaque être humain. Tu n'as pas un être humain qui est que mauvais. Que animal. Il a une partie en lui qui trouve par exemple important qu'il y ait la justice. C'est Neshama. L'animal, là, du point de vue du corps, il y a pas, ça n'existe pas la justice. Regarde un gosse, un petit enfant. Petit enfant, il n'a pas de Neshama. On va éduquer son Nefesh avec du Nefesh. On ne va pas lui dire vérité, justice. Il ne peut pas comprendre ces notions. On va les dire, mais pour lui, ça n'a aucun sens. Il va comprendre que ça vaut la peine pour lui, vous voyez pas ce que je veux dire, il aura du plaisir d'avoir un effet qui est bien. Si tu fais pas ce qu'il faut, pan-pan, si tu fais, tu auras une sucette.
Il n'y a pas de Neshama jusqu'à 13 ans ?
Non.
Alors pourquoi il y a du boulim et ils viennent, ils partent à 8 jours, ils viennent réparer quel...
D'autres parties.
Mais d'une âme de quelqu'un.
Ok, Neshama, c'est une certaine partie de l'âme. L'âme, il y en a plusieurs. Ouais. Ok, je parle des trois. Ces trois parties sont les parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Le gosse, il voit maintenant une petite voiture sympa chez son voisin. Aucun problème, il pousse le voisin, il prend la voiture. C'est naturel. Naturel. Naturel signifie animal. La Torah, elle dit, soit antinaturel. C'est tout. Dans le même caractère de la plage de sable blond avec le cocotier derrière, d'accord, il y a des termes qui reviennent dans les pubs. Naturel. Spontané.
Plaisir,
ça c'est simple à comprendre. Mais sous-naturel, spontané, qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Laisse éclater, s'exprimer toutes tes pulsions animales. Shampoing naturel. Qu'est-ce que le shampoing ? Ça n'a rien à voir. Naturel. Bon, peut-être ça fait des cheveux naturels, c'est-à-dire c'est plus spontané, c'est moins. La Torah, elle est antinaturelle. C'est de nouveau, du point de vue médiatique, c'est hyper mauvais comme campagne de pub. D'accord ? On va dire, écoute, t'as une partie animale, mais c'est pas toi. C'est pas toi. T'es pas un animal. C'est pas toi. Tu as un animal. Donc, il est utile, il est là, parce que c'est le véhicule qui va te permettre maintenant. Qui va permettre à ta neshama de s'exprimer. Que dit ta neshama ? Elle dit vérité. Elle dit me réaliser vraiment. Être quelqu'un. Être à l'image de Dieu. Ça parle à une partie des êtres humains aussi. Le gosse, il va grandir. Un beau tour, on lui dit, un être adulte, on lui dit justice. Il n'est pas croyant, mais on lui dit justice. Ça peut, pas toujours, ça peut le toucher. Hitler disait non. La conscience morale est une invention juive. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, disait-il en allemand. Invention juive, conscience morale. Et qu'une impudence juive pour aller contre nature. La nature, c'est le plus fort qui vainque le plus faible. C'est injuste. Tant pis. Bon, c'est Hitler. Mais des êtres humains qui ne sont pas Hitler, d'accord ? Et qu'ils comprennent, bien qu'ils peuvent être complètement incroyants, dire justice, pour moi je respecte. Pourquoi ? Soyons injustes, la nature est injuste. Que le plus fort gagne. Au nom de quoi tu veux être juste? S'il dit, c'est par commodité sociale, parce que si on laisse l'injustice, alors le monde devient invivable, alors ça, c'est pas Neshama. Ça, c'est de nouveau Nefesh. C'est animal, ça veut dire, c'est pour me protéger, alors j'accepte maintenant certaines lois. Mais c'est un retour vers moi-même. Neshama, c'est toujours désintéressé. Neshama, c'est toujours un message désintéressé. Vrai, c'est pour la vérité, l'amour de la vérité. C'est par amour du bien, amour de la justice. Quelqu'un, c'est par amour de la justice qu'il agit. Ça, c'est Neshama. Il n'est pas croyant, mais il a Neshama. Chaque être humain a cela. Donc chaque être humain a un choix entre le message de vérité de sa Neshama et le message animal. Étant donné que le message de la Neshama, toujours il va contre le message animal. Toujours. Et que le message animal est immédiat, il parle à mes sens. Je le sens beaucoup plus que qu'est-ce que j'ai à gagner avec la justice. Qu'est-ce que j'ai à gagner avec la justice? Donc toujours je regarde mon gain, d'accord? Non, soit la justice pour la justice. Ouais, ouais. T'es un idéaliste, t'es un taré, toi. J'étais jeune, j'arrivais en Israël, à l'âge de 19 ans, j'ai fait un an de philo à la fac. Genre, on regardait tous en Israël, on regardait tous avec des yeux écarquillés comme ça. C'était un pays qui était dur, il fallait gagner sa vie, tout ça. Alors, fais un boulot, va faire des études, quelque chose qui ramène de l'argent. Philo. À quoi ça sert, philo? Non, réfléchis au pourquoi de la vie. Maboule, le type, d'accord? On ne gagne pas grand-chose avec cela. Mais on gagne beaucoup plus, Neshama, être dans le vrai. C'est pour cela que la majorité de l'humanité va aller dans les voies mensongères du Nefesh.
Pourquoi la Torah elle proscrit de telles punitions pour ceux qui vont dans le mal, si tellement parce que vous avez dit la balance elle penche plus vers le mal. Il y a une configuration qui fait que les gens ils ont plus de chances d'aller vers le mal. Donc pourquoi on dit si tu fais ça t'es un pourri complet,
je sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles quand on dit t'es un pourri complet, d'accord? Ça dépend non, de qui quoi. Alors c'est clair, comme tu as dit, Hachem est un juge de justice totale et absolue. Dans cette mesure, il va juger chacun en fonction de tous les paramètres qui seront certainement des circonstances atténuantes. L'époque dans laquelle il vit, l'éducation qu'il a reçue, son background familial, éducatif, génétique, etc. C'est clair qu'Hachem va juger. Ken.
Sans jamais étudier la Torah, un homme, il peut, juste avec sa neshama et son côté vérité, sincère, tout ça, il peut contrer être quelqu'un de bien, ne pas suivre son instinct animal à part pour le shalom bayit avec sa femme, et il se fait comme l'animal, mais sinon c'est un mec droit, il est juste, et lui il va avoir un mérite de la mabah aussi, même s'il n'a pas étudié. Même si,
il aura un certain mérite, c'est clair, mais arrive à la vérité totale, il ne pourra pas. Il ne peut pas avoir de vérité totale sans dévoilement d'Hachem.
D'accord, mais on est d'accord que par rapport à lui et son passé, enfin, le passé de son âme, il y aura un mérite plus grand à l'arrivée déjà de base, je vais t'envoyer 150 perches pour te montrer la vérité, le chemin de la Torah, et l'autre, il va avoir une perche à 45 ans, il va rencontrer un rabbin qui va dire, écoute, t'étais dans le feu toute ta vie, mon pote, voilà. Mais c'est une fois, maintenant, il aurait pu y aller depuis ses 13 ans, 14 ans, parce que son père, il est déjà dedans, ou parce qu'il est dans une école juive, ou parce que... Et ça, alors, ce mérite-là, cette différence de...
Alors, Dieu n'est pas juste dans le jugement, seulement à la fin, il les juge aussi dans les données de départ. Il n'y a personne qui est défavorisé ou favorisé, ça n'existe pas. Simplement, il y a des personnes qui ont une neshama plus grande. Donc, ils ont un appel naturel à l'intérieur d'eux-mêmes, même sans rabbin, sans rien, qui va les attirer vers cela. Et d'autres qui sont beaucoup plus petits. En fonction de la neshama, Hachem va plus ou moins aider, envoyer des perches à quelqu'un. Quelqu'un qui a une neshama qui peut arriver facilement, il aura moins de perches. Je racontais souvent, il y a des gens qui veulent un miracle pour faire tshuva. Ils veulent une vision, un machin, un grand-père qui revient en rêve, un truc super solide. Ça arrive, mais ça arrive à qui? Aux gens petits. Parce que celui à qui on fait cela, quelque part on lui a enlevé beaucoup de son libre arbitre. Pourquoi une personne, on lui envoie un signe pareil? Parce que sans ça, il ne pourrait pas se réveiller. Ça veut dire que le type, là, il a une neshama qui est petite. Il faut aussi un mérite. Je comprends. Je répète, hein, les données de départ, c'est 50-50. Mais si quelqu'un, depuis qu'il est petit, il s'enfonce. Je donne un exemple souvent, je vais le redonner ici. Avant de venir sur Terre, tous nos choix qu'on aura durant la vie sont déjà définis. Quel choix on aura? c'est pas défini quel choix on va faire. C'est-à-dire que toi, tu vas naître et tu arrives à l'âge de 3 ans. Ta mère a fait un bon gâteau au chocolat. Elle dit, tu touches pas, c'est pour tata, son anniversaire ce soir. D'accord ? Ta mère part et tu te retrouves en face du cadeau au chocolat qui te dit, goûte-moi comme je suis bon. Ça, c'est le petit diablotin avec les chaudrons qui écoute, d'accord, tu as l'ange du bien qui vient. Maman, elle a dit non. Donc, t'as un choix. Ce choix-là, avant de venir sur Terre, il a déjà été défini. Maintenant, aussi ignare que tu es en Torah, tu sais qu'il faut écouter maman, et tu sais qu'il ne faut pas manger le gâteau. Il est si bon, le gâteau. Alors, tu as la pulsion Nefesh qui te dit, vas-y, mange. Et plus on, c'est pas Neshama, mais c'est ouais, plus on du bien dans le Nefesh qui te dit non. T'es libre. Tu choisis, goûter le gâteau. Là, déjà, tu t'es enfoncé plus dans le côté du mal. C'était 50-50, maintenant ça devient 51-49. 51 pour le mal, 49 pour le bien. Ta mère revient et dit, qui a goûté au gâteau au chocolat ? Erreur fatale d'éducation, parce que t'es gosse unique. C'est pas un démon qui est venu qui a goûté au gâteau au chocolat. Mais elle veut t'éduquer à dire la vérité. Tac, t'as un choix. Le petit débutant te dit, si tu dis la vérité, ça va être une taloche. Donc, trouve vite une excuse. L'ange du bien te dit, il faut dire la vérité. L'ange du mal dit, non, mais si je dis la vérité, je passe pour un idiot. C'est pas moi. Taloche. T'es fils unique. C'est ferme la clé, il n'y a personne d'autre. Ok. Erreur fatale de la mère aussi. On ne devait pas poser cette question et pas non plus donner une taloche, parce que maintenant, tu vas apprendre quoi ? Tu vas apprendre quoi ? Elle a voulu que tu apprennes à ne pas mentir. Tu vas apprendre maintenant à mieux mentir. Une semaine plus tard, c'est l'anniversaire du tonton. Re-gâteau au chocolat. Mais hier, tu ne touches pas au gâteau au chocolat. Oui, maman. Maman part, le gâteau au chocolat. Là, tu n'as même plus de question déjà. T'es déjà habitué, t'es dans le 51%, on est déjà dans le 52-48. Zip, tu t'enfonces. 53-47. Maman revient, t'as pas vu le coup. T'as amené le gosse du voisin, vous jouez au Lego. T'as goûté au gâteau au chocolat. Tu deviens un traître, un vendu. T'as pas honte ? T'as plein de chocolat ici autour de la... Semaine d'après, ce coup-là, c'est l'anniversaire de la grand-mère. Re-gâteau au chocolat. Mais si tu joues gâteau au chocolat, ça va être ta faim. T'entends bien ? Oui, maman. Maman part. On discute même plus. Après, la moitié du gâteau au chocolat, on avale. Ce coup-là, on amène le fils du voisin. On s'essuie bien, on prend un peu de chocolat qu'on maquille sur les lèvres des fils du voisin. T'as 3 ans et demi, t'es déjà le caïd. T'es le caïd. T'es déjà enfoncé dans le mal. À 18 ans, t'es en tôle. C'est comme ça. Donc la personne, elle a à la base un choix 50-50, mais elle a le choix de s'enfoncer vers le mal. Et le bien.
Mais faut-il de ce choix qu'elle a fait à 3 ans ?
Alors Hachem est tout à fait juste et va dire, ce gosse-là, après tout, il a été mal éduqué, erreur fatale de sa mère, il a des puissants comme ça, on va lui tendre des pertes. Plus qu'un autre, qui n'avait pas ces circonstances, le poussant plus à faire le mal. Hachem est juste. C'est ça, je ne vais pas donner tous les exemples et les cas de figure, mais Hachem est juste. Et jamais il va bloquer quelqu'un d'arriver vers la vérité plus que ce qu'il mérite comme blocage. Il faut comprendre qu'il y a des démérites. C'est-à-dire que quand tu fais des péchés, tu attires vers toi des choses qui t'éloignent de la vérité. Je te racontais, il y a des gens qui veulent faire tchouva et on les empêche de faire tchouva. On les empêche. Chaque fois qu'ils veulent commencer, c'est une avalanche de malheurs. Quoi, Hachem ne veut pas qu'il fasse tchouva. Tous les péchés qu'il a faits sont là qui disent non, il ne mérite pas. Alors Hachem lui tend une perche, je lui dis, mon vieux, tu veux, mais il faut maintenant que tu répares tout ce que tu as fait. Donc tu as charrié maintenant des montagnes de péchés que tu as fait qui empêchent cela. Mais c'est toujours possible. Hachem donnera toujours le choix. Il n'y a personne qui est. Il arrive, oui. C'est à un certain moment qu'on s'est enfoncé trop. Là, c'est le point de non-retour. Ça arrive. On a le cas de Pharaon. Pharaon qui avait le choix dans les 5 premières plaies de reconnaître la véracité d'Hachem et de libérer le peuple juif, il a refusé. Hachem l'a bloqué pour les 5 dernières plaies, que même s'il veut, il ne peut pas. Alors, on l'enfonce. Il est dans le bien. Quelqu'un peut arriver à des niveaux de bien très grands. David HaMelech dit Libi halal vekirbi, mon cœur est vide en moi. On dit qu'il l'a tué sur un serara. Il arrivait tellement haut dans la sainteté qu'il a. C'est des bas, fini. Il y a des choses de choix, c'est terminé. Ça ne m'arrivera plus, ce truc-là. Le monde peut s'écrouler, je ne toucherai pas. Et nous tous, quand on avance dans la vie, il y a des choses que c'est clair qu'on ne touchera pas. Beaucoup de bons juifs, pour eux, la côté de jambon, ça ne passe pas. Tu me tues, je ne fais pas ça. Il faut le faire. On peut manger une côté de jambon si on vient nous tuer, d'accord? Mais lui, non. C'est acquis. C'est super acquis. Parce que lui, ses ancêtres, arrière-ancêtres, tout ça, c'est dans les gènes, d'accord? Le porc, ça ne passe pas. D'autres choses qui sont bien plus graves, les filles, ben, ça passe. D'accord? Bon, ça, c'est notre paire de manches. En deux mots, Hachem est complètement juste. Et laisse à chacun, à chaque être humain, juif ou pas, toutes les chances d'arriver à la vérité. Mais il est vrai que beaucoup choisiront plus le mensonge plutôt que la vérité.
On est d'accord qu'il va plus pécher celui qui a une grande âme parce que justement, il va avoir des cinquantaines de pères sur 8 ans.
Celui qui a une grande âme aura des épreuves plus dures que celui qui a une petite âme. Mais c'est pas forcément qu'il va plus pécher. Ça se peut que des fois, il fera plus de mitzvot. Tout dépend de ses premiers choix.
Si on lui a attendu 50 perches, si on arrive à la 50e perche, ça veut dire qu'on lui a attendu 49 avant, qu'il les a pas saisis. C'est-à-dire qu'il avait le choix de faire le bien et le mal, il a fait le mal.
Mais qui t'a dit qu'une grande âme, on lui donne beaucoup de perches? C'est le contraire. Une grande âme, il y a peu de perches, vu que lui, par lui-même, il peut arriver. Une grande âme, il a un éclairage naturel de son âme qui vient, qui lui dit « Choisis la vérité ». Une petite âme, ça ne l'intéresse pas, la vérité. Lui, il est attiré par les choses de ce monde. Cette petite âme aura besoin de plus de perches, de miracles, de signes, de rêves, de choses de ce type-là.
C'est pas parce qu'on n'a pas choisi le gâteau au chocolat qu'on va forcément rentrer dans le monde de la Torah.
C'est pas forcément, mais ça te rapproche. Il y a une panoplie de choix maintenant. Tu peux arriver à être le chef de la mafia, tu peux arriver à être Baba Salé. En bas, c'est le chef de la mafia, tu as 1 milliard de degrés. C'est pas forcément que demain. Tu as Baba Salé, tu as moins Baba Salé, tu as un Ben Torah, tu as un religieux orthodoxe, mais pas Ben Torah, tu as un traditionniste, tu as un réformiste, tu as un Marie avec une Goya, tu as un voyou et tu as un caïd. Tu as beaucoup de. En fonction de tes choix, tu mériteras d'arriver à là ou là, plus ou moins proche de la vérité. C'est très clair. Moi, j'avais un cousin que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le pauvre, il est orphelin de mère. Sa mère, c'est une des premières femmes qui a été tuée ici par des terroristes. C'était en 1954. La première fois où des terroristes ont traversé la frontière libanaise, sont arrivés, ils ont jeté une grenade dans le but dans lequel elle était, donc ma tante, on les voit. Lui, un très bon garçon. Très bon garçon. Il était même payé dans les Tzanhanim. Son père, un député de la Knesset, Mapai, socialiste anti-religieux, socialiste athée. On est très copain. Quand j'ai fait Tchouva, il n'a pas compris. Lui vient d'éducation kibboutznik, socialiste. On est des bons copains. Hein. Je deviens religieux, tout ça. Et j'ai travaillé longtemps pour venir qu'il vienne une seule fois. Je voulais montrer les codes dans la Torah. C'est un truc super solide, les codes. Les codes, c'est une bombe. J'ai réussi à le décrocher une fois. Il vient. On était à l'hôtel ensemble, tout Pessah. Et il décide de venir un soir chez moi. Je lui montre les codes. Inimaginable. C'est un truc, c'est un même PD, c'est un truc très, très solide, très bien. On est à 8h30 du soir, il s'endort. Je lui parle, il s'endort. Une demi-heure, il s'endort. Oui, tac, 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 tac.
Les codes
dans la Torah, c'est un truc, on peut montrer.
C'est un livre là où il faut les mots croisés.
Ouais, des mots croisés. Voilà. Ouais. Non, le livre en français.
Ils sont faits par Hachem,
les mots croisés. Le livre en français, on dirait un livre de mots croisés.
Le livre en français, c'est un escroc qui a fait cela. D'accord? Mais il y a des vrais codes. C'est un truc hyper solide. On repart à l'hôtel, il est en pleine forme. Du ciel, on l'empêche. Pourquoi ? Pas parce qu'il ne mérite pas. Parce que je crois que Hachem a vu que les efforts qu'il aurait dû fournir après pour faire tchouva, c'était impossible. Il n'aurait pas pu aller contre tout l'establishment socialiste duquel il vient, contre le kibbutz, ça, il n'aurait pas pu. Alors, lui montrer, ça ne le rendait que plus coupable. Ah, pourquoi l'enfoncer plus ? Voilà. Je ne connais pas, c'est moi qui pense comme ça, d'accord ? Mais tu vois que des voix. Alors, Hachem ne veut pas qu'une personne se réveille. Impossible. Impossible. Alors, c'est Hachem qui juge. Hachem fait certainement le mieux pour ramener la personne. Mais il y a une justice. Parce que si Hachem ramenait gratuitement, la raison du monde n'existe plus. Hachem a créé ce monde dans la justice pour qu'on puisse arriver par nous-mêmes et mériter. Dire j'ai droit. Voilà. Oui, dernière question, il est un peu tard. Oui.
Pour pouvoir franchir le cap, quand on est en français, c'est où on passe des épreuves, ou sinon on prie Hachem fort. Sûrement qu'il y a des raccourcis en priant.
Quels sont les moyens pour quelqu'un qui n'a pas de mérite, quels sont les moyens de revenir qu'Hachem...
Des raccourcis avec les tefilotes, par exemple.
S'il prie, oui, bien sûr, il y a des raccourcis. D'abord, les gens qui prient pour lui, ça peut aider, c'est clair. Les souffrances qu'il aura, le mérite des ancêtres, le mode du mitzvah qu'il a fait quand il était jeune. Et je peux même peut-être que... Il se peut, je ne suis pas certain. Hachem va voir maintenant que s'il fait tchoua, il fera beaucoup, beaucoup de mitzvot. Et peut-être qu'Hachem compte ses mitzvot déjà, qu'il va faire. Il compte déjà avant. Peut-être, j'ignore. Baruch Adonai, Amen.